Radio Kapi.
De plus, l'actualité reste dominée par le séjour de la royauté belge en RDC. En entame de cette édition, un bref contour des activités du pouvoir de la Belgique aux côtés du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, notamment au Musée national et au Parlement. Nous vous parlons aussi de cette initiative du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui tente au Sud Kivu de venir à bout des actes de justice populaire en territoire d'Uvira. Ceci à travers une série de sensibilisations et préventions pour près de 30 acteurs locaux. Le député d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO Beni, Angélique Kouela, est notre invité ce jour. Nous la recevons pour parler de l'importance de la formation des responsables des prisons de Beni. Merci de votre confiance, fidèles auditeurs. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. À la présentation de ce journal, Billy Yvan Lutumba. Le roi Philippe réaffirme ses sincères regrets au peuple congolais pour toutes les actions commises par le régime colonial belge caractérisé par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Le souverain belge l'a dit ce mercredi au cours de son adresse au palais du peuple à Kinshasa. Il s'est dit aussi très préoccupé par la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. On écoute le roi Philippe dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais, et à ceux qui, aujourd'hui encore, en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincères regrets que j'avais exprimés dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Monsieur le Président, vous et moi sommes trop jeunes pour avoir vécu le Congo d'avant son indépendance. Mais pour vous comme pour moi, la présence belge au Congo avant 1960 laisse aussi un héritage qui a ancré le pays dans ses frontières actuelles. La préservation de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que nous partageons.
Journée chargée ce mercredi pour le couple royal belge arrivé à Kinshasa hier mardi. Cet avant-midi, le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité le mémorial des anciens combattants et le musée national en compagnie du couple présidentiel Félix et Denise Tshisekedi. À cette occasion, le roi Philippe a restitué au président Félix Tshisekedi le masque Kakurungu de l'ethnie Soukou collecté par Albert Mayensen en 1954 à Pungulwala. Il s'agit d'une collection du musée royal de l'Afrique centrale Terre Vuren qui a été dévoilée par le roi et le président congolais au musée national à Kinshasa avant de procéder à la signature du patrimoine d'entente culturelle entre les deux pays. On écoute le roi présenter cette œuvre d'art. Le roi Philippe est au micro de Jeff Ngoy.
Monsieur le Président, le masque Kakungu intervenait chez les Soukous dans des rituels de protection et de guérison. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Terre Vuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale de Terre Vuren au Musée national de Kinshasa, qui peut ainsi reconstituer ses collections. Elle marque le début symbolique d'un renforcement dans la collaboration culturelle et muséale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo.
Réagissant à l'insécurité dans l'est de la RDC, le Royaume de Belgique se dit prêt à aider la RDC au rétablissement de la sécurité dans sa partie est. Le Premier ministre belge Alexander De Croo l'a fait savoir ce mercredi au cours d'un point de presse conjoint qu'il a eu avec le président de la République, Félix Tshisekedi, au Palais de la Nation où un arbre a été planté par le roi Philippe dans les jardins du palais après avoir effectué une visite guidée de la salle où fut prononcé le discours de l'indépendance du 30 juin. On écoute le Premier ministre belge au micro de Jeff Ngoy.
Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira « l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire ». Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Je vais être clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées.
En rapport toujours avec cette visite du roi des Belges, elle suscite des réactions dans plusieurs milieux. S'il y en a qui saluent la venue du couple royal belge en RDC, d'autres se demandent pourquoi une simple visite peut faire l'objet d'une telle mobilisation. Parmi eux, le professeur émérite Witt Mulongo de l'université de Lubumbashi. On l'écoute au micro de Jean Gandou.
Que se passe-t-il dans le pays de Lumumba? Pourquoi tant d'agitation, tant de frénésie autour d'une visite officielle qu'un chef d'État, fut-il roi, rend à un autre chef d'État? Pourquoi une mobilisation de la population, des institutions, que des finances, une visite pourtant normale? Doit-on conclure qu'après 60 égale avant 60, la Belgique réservera-t-elle le même type d'accueil à notre président? Il va falloir qu'un jour le Parlement nous obtienne le budget qu'aura coûté cet accueil inimaginable dans un pays si pauvre. Philippe est-il roi de Belge ou aussi roi de Congolais? Je suis vraiment sidéré, vraiment retourné.
Autre visite à 3 semaines de l'arrivée du pape François à Goma. L'évêque de Goma annonce que les préparatifs pour ce grand événement évoluent très bien. Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele appelle à une mobilisation générale pour l'accueil du pape à Goma le lundi 4 juillet 2022. Il l'a dit ce mardi dans une conférence de presse tenue à l'évêché. À la question de savoir ce que la visite du pape apporte aux habitants de Goma et Nyiragongo ainsi qu'à ceux de toute la région, l'évêque de Goma estime que Papa Waroma apporte un message de paix et de réconciliation pour toute la région. Ses propos sont recueillis par Rosalie Zawadi.
Il veut nous rappeler que Dieu est notre Père à nous tous. Donc entre nous, il ne doit pas avoir ces discriminations. Il veut nous rappeler le respect de la dignité de chaque personne humaine, l'amour fraternel. Et c'est cette grâce-là que nous avons à recevoir. Le passage du pape dans notre région va laisser beaucoup de grâce et bénédiction pour les personnes d'abord, mais aussi pour notre région. Je suis sûr que le message qu'il va nous donner va sûrement produire chez nous une certaine conversion, pour que désormais nous puissions nous accueillir comme des frères, afin que toutes les questions de division, de guerre, d'affrontements armés, des groupes armés qu'il y a dans les régions, toutes ces personnes qui cherchent toujours à s'enrichir sur le dos des pauvres, à exploiter les pauvres, tous ceux qui veulent exploiter les richesses de ce pays sans penser à la population qui souffre, qu'ils entendent le message du Saint-Père, qui les invite à aimer son prochain, à aimer son pays, à aimer ses frères et à travailler pour le bien de tous.
Notons qu'au-delà de la messe sur le site de Kibaya à Kibumba, le pape François va échanger avec les victimes des violences armées à Beni et Rutshuru, ainsi que les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021. Changeons de chapitre. Au Sud Kivu, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme BCNUDH MONUSCO a démarré hier mardi à Sangué, dans la plaine de la Ruzizi, une série de sensibilisations et préventions des actes de justice populaire en territoire d'Ouvira. Près de 30 acteurs locaux, parmi lesquels les représentants des confessions religieuses, les femmes, les jeunes, la police, les autorités civiles locales prennent part à cette activité de 2 jours dans la cité de Sangué. À l'issue de l'atelier, ce mercredi, les participants mettront en place un réseau d'alerte précoce des cas de justice populaire dans leur milieu. Fiston Goma.
Les participants venaient de Mutaru, les Loubéris, Inyakaber et Sangue et la basse plaine vers la rivière Ruzizi ont déploré les phénomènes mystiques appelés sorcellerie qui prend de l'ampleur et qui est devenu source de la pauvreté dans leur milieu. Beaucoup de personnes accusées d'être sorcières ont évacué les villages, d'autres ont été tuées par les habitants en colère. En plus, les acteurs locaux expliquent le regain des actes de justice populaire par le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire où des personnes poursuivies pour les cas de vol et banditisme ont été relaxées. L'abbé Moudé Rwabisimwa est curé de la paroisse paroisse catholique Saint-Kizito de Sangé.
Un voleur, on le prend, on l'envoie à la police et après au tribunal, ainsi de suite. Mais si ce voleur là-bas est pris par un groupe de jeunes jusqu'à être tué, c'est parce que l'on sait que s'il va à la police ou bien au tribunal, peu de temps après, on remarque qu'il a été libéré. Alors qu'il devrait même faire plus de 20 ans en prison.
Le premier substitut du procureur de la République a recadré les acteurs locaux sur ce que dit la loi en rapport avec les infractions des vols et viols. Il a indiqué la procédure à suivre en cas d'infraction, sauf pour la sorcellerie qui n'est pas reconnue par la loi congolaise à la suite des manques de preuves matérielles. Après Sangue dans la plaine de la Ruzizi, cette activité se poursuivra dans la ville d'Uvira où des actes de justice populaire sont récurrents. D'Uvira, Fiston Momayaba, la Radio Kapi.
En Ituri, à présent, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guillo Andomboyo, a lancé mardi les travaux de modernisation de l'aéroport national de Murongo à Bunia. C'était en présence de ses deux collègues des finances et des infrastructures. Selon le gouvernement, l'objectif de ce projet est de transformer cet aéroport afin qu'il réponde aux standards internationaux pour le développement économique de l'Ituri. Reportage de Martial Kizabiamungu.
Selon l'entreprise Mogabaon qui va exécuter ses travaux, la piste de l'aéroport de Bunia sera allongée de 650 mètres et élargie de 15 mètres également. L'agrandissement de l'aire des stations de bain va passer de 14 000 mètres carrés à 32 000 mètres. Ce projet prévoit également la construction d'un aérogare pour passagers avec des circuits distincts, les arrivées et le départ. Une tour de contrôle sera enfin construite. Elle permettra d'avoir la vision aux deux extrémités de la piste. Gilbert Mugnampara de l'entreprise Mogabaon. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guillo Andomboyo, rassure que le gouvernement congolais a déjà mis à la disposition de l'entrepreneur des moyens financiers pour l'exécution des travaux du premier marché, c'est-à-dire l'allongement de la piste.
Nous sommes venus lancer les travaux et les fonds ont été mis à sa disposition pour le premier lot afin que les travaux démarrent immédiatement.
Pour les opérateurs économiques, ce projet va non seulement ouvrir la province de l'Ituri à d'autres provinces et au monde extérieur, mais aussi booster l'économie de la province. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale, le blocage est au niveau de la non-convocation d'une assemblée générale par la mairie de Kikwit et non au niveau de la société civile. Ceci est la réaction du président de la société civile urbaine de Kikwit dans la province du Kwilu à la suite des allégations portées par la population et la mairie de cette ville l'accusant de refuser d'aller retirer à l'évêché la somme d'argent cotisée par la population pour acheter un bon groupe électrogène et alléger le coût à payer par la population pour les services de la morgue de Kikwit qui coûte très cher. Pour Laurent Bouenia, le retrait de cet argent ne se fera qu'après la convocation de l'Assemblée Générale par le maire de la ville. Il l'a dit à Irène Boma.
La morgue est co-gérée par l'hôpital général et la mairie de Kikon se le dise. Il n'y a jamais été question de la cotisation de la population pour alléger le coût de la morgue. La cotisation de la population, quant à elle, est une autre histoire, lancée pour l'acquisition d'une autre morgue. Mais la cagnotte, 7 080 $, s'étant montrée insuffisante, une assemblée générale décida d'appuyer la morgue existante. Et il fut confié à la mairie la mission de mener les études pour évaluer la hauteur de ce soutien et revenir donner les conclusions au sein d'une assemblée générale. Il n'y a jamais eu cette convocation jusqu'au jour où le maire va s'emmener en dehors de l'AG à l'évêché avec une équipe pour retirer l'argent. Le maire ne sera pas servi, monseigneur lui ayant exhibé le PV, parlait de l'assemblée générale. De tout ce qui précède, le blocage est au niveau de la non-convocation de l'AG et non au niveau de ceux qui refuseraient de retirer l'argent en dehors de l'âge.
Actualité internationale.
Les avocats du franco-gabonais Brice Lacruche Alianga, ancien bras droit du président Ali Bongo Ondimba, ont assuré mardi avoir écrit au président Emmanuel Macron pour l'alerter sur la santé dégradée de leur client condamné à 5 ans d'emprisonnement à Libreville. Nommé directeur du cabinet présidentiel en 2017, Lacruche était devenu le véritable homme fort du pouvoir gabonais pendant la longue convalescence du président Bongo après un accident vasculaire cérébral en octobre 2018. Au point que l'opposition, mais aussi des caciques du parti présidentiel, s'étaient émus d'une tentative de prise de pouvoir en l'absence du chef de l'État gabonais. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a regretté que la junte malienne n'ait pas attendu la fin des négociations avec elle pour fixer l'échéance d'un retour des civils au pouvoir et souligner dans un communiqué publié mardi soir que le dialogue continuait. Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a signé lundi un décret stipulant que les militaires gouverneraient jusqu'en mars 2024 avant de rendre le pouvoir aux civils à l'issue de cette période dite de transition.
L'invité.
L'invité de la rédaction est la responsable de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO Béni. Angélique Kouela parle de l'importance de la formation des responsables des prisons de Béni, Bounia et Boutembo sur le thème « Évaluation et classification des détenus ». Cette activité qui a débuté ce mardi se déroulera pendant 3 jours. Elle s'entretient avec Martial Papimoukeba.
Madame Angélique Kouela, bonjour.
Bonjour, monsieur Martial.
Pourquoi vous avez décidé de former les responsables des prisons de Béni, Boutembo et Bounia?
Il faut dire que dans la mise en œuvre de son programme d'activité, l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire a intégré le renforcement des capacités professionnelles des acteurs pénitentiaires. C'est à cet effet que l'administration pénitentiaire a décidé de former 9 cadres des prisons de Béni, Boutembo et Bounia en évaluation et classification des détenus.
Le thème de la formation, c'est évaluation et classification des détenus. Pourquoi ce thème?
Vous savez que présentement, nos prisons, notamment la prison de Béni, la prison de Boutembo et celle de Bounia, regorgent un certain nombre de détenus issus des groupes armés. Et au regard du nombre important de ces détenus-là, l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire a donc initié la formation de ses acteurs sur le thème évaluation et classification des détenus qui suppose d'abord, quand vous prenez le mot évaluation, c'est l'étude d'un détenu. Et la classification, c'est la catégorisation. Donc, c'est l'identification du degré de dangerosité du détenu en détention dans le but donc de renforcer les mesures sécuritaires et en même temps de pouvoir classer ces détenus-là en fonction de leur catégorie.
Est-ce que cela n'implique pas aussi leurs conditions de détention?
Oui, cela implique nécessairement leurs conditions de détention parce qu'il faut dire que dans nos prisons, et nous avons des défis. Et les défis aujourd'hui sont liés aux conditions de détention, comme vous venez de le dire, mais cela n'empêche parce que nous nous sommes dit que il faut quand même un départ parce que les défis sont là. Quand on parle de l'évaluation et des classifications, cela suppose la classification des détenus en fonction de leur catégorie. Et vous constatez que dans nos établissements, il y a déjà un problème d'infrastructure qui est là. Donc, c'est un handicap qui est là, mais cela n'empêche que nous puissions commencer avec quelque chose qui puisse déjà aider les détenus parce que l'évaluation et la classification des détenus entrent donc dans le cadre aussi de leur réadaptation sociale, de leur réinsertion sociale.
Qu'est-ce que cette formation va apporter dans l'amélioration des conditions de détention des détenus dans les prisons de Béni, Boutembo et Bounia?
Comme impact de la formation, il faut dire que la formation vise d'abord à outiller ces 9 cadres de la prison-là, comme je le disais, dans l'identification du degré de dangerosité des détenus. Là, c'est un élément déjà très, très important parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans nos prisons, il y a des détenus qui arrivent pour des infractions dites bénies, c'est-à-dire des infractions mineures. Et aussi, il y a des détenus qui arrivent pour avoir commis donc des infractions plus graves, comme des assassinats, des meurtres, et également les détenus qui sont issus des groupes armés, comme vous le savez. Participation au mouvement insurrectionnel, qui sont des infractions dites infractions à haut risque. Donc ça, c'est le premier point, l'identification du degré de dangerosité des détenus. Le second point, c'est de pouvoir asseoir un système efficace dans la gestion de catégorisation des détenus. Et là, ça va permettre un meilleur suivi des détenus en fonction de leur infraction. Ensuite, c'est de prévenir donc la radicalisation des détenus et anticiper les actions criminelles en prison. Parce que quand on a un bon suivi des détenus, on peut déjà anticiper certaines infractions qui risquent de troubler donc l'ordre sécuritaire. Et également, cette activité va permettre de réduire les évasions et les mutineries en détention et en même temps favoriser la réadaptation sociale du détenu.
Est-ce que cela n'exige pas la création des cellules dans les différentes prisons selon la catégorie des détenus et selon les infractions pour lesquelles ils sont arrêtés ou condamnés.
C'est une question vraiment pertinente. Il faut forcément des cellules de séparation. Mais ça, c'est un travail qui va se faire en collaboration avec le gouvernement congolais parce que la MONUSCO est là, c'est une organisation d'appui. Et cela aussi va impliquer plusieurs autres acteurs dans la mise en œuvre de cette gestion sur le plan infrastructure.
Madame Angélique Kouéla. Merci.
Merci beaucoup.
Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.